Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Bonsoir, une nouvelle journée d'action demain jeudi chez Air France, alors que le référendum lancé par Jean-Marc Janaillac, le résultat sera connu le lendemain, vendredi. Au cœur de la grogne, vous le savez, il y a les salaires. Hein. Le président de Air France met en jeu son poste dans ce vote que les syndicats ne considèrent pas comme contraignant. Alors au-delà de son propre avenir, c'est celui de la compagnie qui est posée justement dans un secteur de plus en plus concurrentiel. Est-ce que ces grèves à répétition vont compromettre une reconquête nécessaire pour que le géant français soit plus crédible, plus compétitif? Question toute simple, les pilotes vont-ils tuer Air France? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Les meilleurs comme tous les soirs pour revenir sur un des grands sujets de l'actualité économique du moment. Pascal Perry, grand spécialiste de l'aérien, directeur de PNC Économique, il est économiste. Bernard Vivier avec nous, le directeur de l'Institut supérieur du travail, grand spécialiste évidemment du monde syndical. Yann De Roc, analyste financier chez Odo Securities. Monsieur Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique à BFM Business. Et puis Olivier Lavielle, steward chez Air France, il est porte-parole du SNGAF, le syndicat des navigants du groupe Air France. Il est venu en uniforme. Et vous pouvez le croiser de temps en temps sur les lignes Asie de la compagnie Air France. Quatre dates de grève en mai, dont demain, Air France, qui prévoit d'assurer près de 85% du programme de vol, c'est-à-dire le taux le plus élevé depuis le début du conflit salarial en février. 78% de ses vols long courrier, plus de 80% de ses moyens courriers au départ et vers Charles de Gaulle, et près de 90% de ses vols court courrier sur Paris-Orly et la province. Yann De Roc, juste un mot, on va revenir sur les raisons de la grogne dans un instant, notamment avec Pascal Perry, mais apparemment cette tendance a plu aujourd'hui au marché. Air France qui a terminé en bourse de plus de 6%. C'est la raison principale?
Oui, c'est la raison principale, c'est un soulagement, on va dire. On voit un tout petit peu les taux de grève qui baissent de plus en plus, en particulier sur la catégorie des pilotes.
18,8% des pilotes annonçaient donc la direction d'Air France.
Les investisseurs espèrent effectivement que ce mouvement de grève va se terminer. Je vous rappelle, on perd environ 25 millions d'euros par jour ces derniers jours de grève. Donc les investisseurs pensent que ce phénomène va s'estomper.
La direction a chiffré d'ores et déjà à 300 millions d'euros la perte engendrée par ces grèves, donc eh bien pour la compagnie Air France. On va revenir sur le conflit, on verra si le mouvement s'essouffle ou pas, et comment peut-il s'arrêter. En effet, attention, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Pascal Perry, Air France regrette la poursuite de ses grèves, alors même que la direction de la compagnie a fait plusieurs propositions, a lancé cette consultation donc qui sera close vendredi, après-demain. Ça fait plus de 2 mois que Air France subit des grèves par intermittence, 11 journées de grève. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la raison? Expliquez-nous.
Alors, bon, c'est un mouvement assez large dans l'entreprise, mais malgré tout, c'est un mouvement qui est mené par les pilotes du SNPL. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se murent dans une position assez radicale? D'abord parce que leurs salaires n'ont pas augmenté depuis 2011. Il n'y a pas eu d'augmentation générale des salaires depuis 2011, ce qui est d'ailleurs assez faux sur le plan des faits, parce que il y a le GVT, il y a le glissement naturel, il y a les promotions, il y a tous ces éléments qui couvrent d'ailleurs le coût de l'inflation en France, qui a été évalué pour la période à 3,8%. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, il est d'ordre un peu psychologique. On est dans un affrontement assez personnalisé, malgré tout. Le SNPL et la direction d'Air France, c'est une longue histoire de co-gestion. D'abord, c'est une entreprise de pilotes qui a été fondée par des pilotes. Pendant très longtemps, le SNPL a été en situation de cogestion, mais Alexandre de Juniac a voulu mettre un terme, le précédent président a voulu mettre un terme à cette situation. Et effectivement, aujourd'hui, la distance est plus grande entre la direction de l'entreprise et la direction du SNPL. Il y a aussi la personnalité du dirigeant aujourd'hui, qui est du dirigeant du SNPL, qui est assez contesté en interne, des rapports de force à l'intérieur du syndicat, oui, monsieur Philippe Évin, des rapports de force à l'intérieur du syndicat. Donc ça constituait un peu tous les ingrédients de ce mouvement social à un moment où les pilotes disent aussi on voudrait participer aux bons résultats. Je dis juste un mot là-dessus. Les bons résultats en 2017 sont un peu en trompe-l'œil. Oui. D'abord, c'est vrai qu'il y a un résultat d'exploitation qui est plutôt bon. On arrive à 1,5 milliard de bénéfices d'exploitation. Cela dit, quand on le retraite avec des charges exceptionnelles, ça produit des pertes. Ça, c'est le premier point, sans destruction de trésorerie. Mais quand on regarde Air France et KLM, on s'aperçoit qu'avec 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, KLM dégage pratiquement 900 millions d'euros de bénéfices, alors qu'avec ses 16 milliards de chiffre d'affaires, Air France est à moitié moins.
Donc la rentabilité de Air France a baissé de 2,6% à 2,4%, quand celle de KLM a grimpé de 3,9% à 6,9%. Oui. Pourquoi nous expliquer d'ailleurs? On y reviendra, parce que du côté
il y a juste un dernier
Pays-Bas,
élément
ça tangue un peu, justement.
Qui est important, c'est qu'en réalité, le coût unitaire continue de progresser chez Air France. Et c'est quand même un peu le juge de paix dans le domaine économique pour juger de la rentabilité d'une entreprise.
On va leur expliquer tout ça. Alors, au départ, c'est vrai qu'il y a les pilotes qui ont été rejoints par l'intersyndicale, hein, les 10 syndicats de tous métiers qui réclament une augmentation de 5,1% dès cette année pour compenser donc la perte de pouvoir d'achat subie selon vous. Hein, je vous montre du doigt Olivier Lavielle, puisque vous représentez ici le syndicat des navigants du groupe Air France, depuis la dernière augmentation générale de 2011, à laquelle faisait allusion tout de suite Pascal Perry. La direction, elle propose une hausse générale des salaires de 2% cette année, puis 5% supplémentaires d'ici 2021, plus des augmentations individuelles, etc. Vous, ça vous va pas?
Non. Alors d'abord, il y a une première inexactitude. Les personnels d'Air France n'ont pas rejoint les pilotes. C'est-à-dire qu'il y a eu une négociation qu'on appelle un AO. Cette négociation a abouti sur une proposition de la direction à 1% d'augmentation. Voilà. Après que cette même direction se soit augmentée de 17% et quelques. Il y a un problème de communication entre la direction et les salariés d'Air France. Hein. On est capable d'entendre beaucoup de choses, mais pas les injustices, si vous voulez. Et donc c'est un peu le fond de ce problème. À partir de là, il y a une intersyndicale qui s'est formée. Et il se trouve que, naturellement, les bureaux du SNPL étant plus grands, on s'est rejoint chez les pilotes. Mais les pilotes ne sont pas les leaders de ce mouvement-là. Vous assurez que, par exemple, la mobilisation au sol est relativement forte aussi. Et que, quand bien même les pilotes montraient dans l'avion, si les gens du sol avaient décidé de ne pas les faire voler, la grève serait là quand même. Voilà. Bon, il se trouve que les pilotes sont plus visibles que nous. Ils sont peut-être plus beaux dans leur uniforme, donc on les invite plus souvent, donc ils sont plus visibles. Mais
Pas sûr que ça soit la raison, mais bon.
Alors je sais pas. Mais en tout cas, il est exact de dire que les pilotes mènent ce combat-là. Maintenant, pour ce qui est tout à l'heure, on parlait de la GVT. La GVT, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le combat que l'on mène aujourd'hui. C'est quelque chose qui est négocié en accord collectif, qui a une raison d'être, en fait. Hein. Ça cadre une certaine évolution de salaire au regard de la difficulté.
Qu'est-ce que c'est? Oui.
La GVT, c'est le glissement vieillesse technicité.
Voilà. Voilà. Dont les fonctionnaires profitent eux-mêmes et dont les salariés d'Air France également.
Voilà. Alors, vite fait comme ça.
Oui, vite fait, parce qu'on va pas rentrer trop dans le technique.
Voilà, on a une population qui va vieillir, évidemment. C'est un métier qui est assez complexe, le métier de navigant, en l'occurrence, parce que je représente des navigants. Et il s'est trouvé que dans l'accord collectif, il serait juste de pouvoir faire évoluer leur rémunération en fonction de la pénibilité qui ne fait qu'augmenter avec l'âge. Donc voilà ce qu'est la GVT. Maintenant, pour les 5,1% que l'on demande, voilà, c'est une promesse de la direction qui a été faite alors qu'elle nous demandait de faire des efforts. Efforts qui sont traduits par 24% d'augmentation de productivité en plus. Et le gel total de nos salaires pendant 7 ans.
Bah, on reviendra justement sur les efforts pour retrouver de la compétitivité dans une compagnie comme Air France, au milieu d'une concurrence, je le disais, qui s'exacerbe, celle du Golfe, des compagnies asiatiques, des low cost. Bernard Vivier, Olivier Lavielle, qui représente donc les stewards, le syndicat national des navigants du groupe Air France, nous dit non, au départ, il n'y a pas forcément les pilotes et nous, on les a rejoints. Quand même, l'intersyndicale et les pilotes, est-ce qu'ils font bon ménage? Franchement, quand on est steward, personnel au sol, est-ce qu'on a envie de se comparer aux pilotes qui jouissent d'un statut à part? Quand je dis ça, je porte pas de jugement particulier sur le salaire des pilotes, le salaire des pilotes, leur nombre d'heures, etc. Mais c'est deux catégories quand même extrêmement différentes, deux mondes qui se côtoient mais qui ne se rejoignent peut-être pas.
Oui, c'est la famille du transport aérien. Oui. Donc les intérêts de l'ensemble des personnels sont liés. Mais c'est vrai, ce que vient de dire monsieur Olivier Lavieille est très intéressant, la façon dont vous l'avez dit. Quand vous avez dit le prestige, l'uniforme, vous avez, monsieur, un bel uniforme aussi. Pourquoi les pilotes sont-ils si valorisés aux yeux de leurs collègues de travail, aux yeux du personnel dans son ensemble, aux yeux du monde du transport et des voyageurs que nous sommes? Pour deux raisons. L'une qui a été donnée... Oui, exactement. C'est-à-dire, ces pilotes ont construit la firme, la société, la compagnie, et finalement l'ont co-dirigé pendant longtemps et n'acceptent pas aujourd'hui d'être finalement considérés comme une catégorie, certes importante, mais d'autres. Pour une autre raison...
Ce que vous dites, pardon, Bernard Villiers, ça veut dire que toute direction stratégique de la direction, il faut absolument requérir l'aval.
C'est plus que ça.
C'est plus que ça.
C'est écrit. Des accords.
Il y a une puissance dans la gouvernance de l'entreprise.
Donc si les pilotes avaient dit je ne veux pas de June, la nouvelle compagnie,
on l'aurait pas vu.
Il y a tout un tas de sujets qui sont bloqués aujourd'hui les possibilités de développer une flotte low cost plus importante, compris même sur la possibilité d'acquérir des nouveaux appareils pour détacher éventuellement des commandants qui vont pouvoir former, etc. Tout ça est impossible sans l'accord des pilotes.
Quand Air Inter a été repris dans le groupe, il était envisagé d'en faire une compagnie low cost.
Oui, oui.
Verdict des pilotes, pas question.
Veto même. Voilà, c'est sûr.
Il y a la deuxième raison. La deuxième raison, elle est propre à toute corporation, à tout métier. Prenez les mineurs, prenez les cheminots. Vous avez toujours à l'intérieur de cette grande famille des métiers plus considérés que d'autres. Ceux qui sont au contact...
Les ouvriers du livre, voilà aussi.
Oui, ceux qui sont au contact de la matière, ceux qui sont au contact de l'effort le plus difficile, du risque. C'est précisément pour les pilotes. Les mineurs de fond ont toujours été dans la grande famille des mineurs plus considérés que ceux qui sont en haut. Les roulants à la SNCF, ceux qui conduisent les locomotives, Jean Gabin, dans notre imaginaire, c'est pas
la bête humaine.
Sans rien. Voilà, c'est pas ceux qui sont dans les gares ou qui sont garde-barrière. Mmh. Alors qu'on a besoin autant de garde, on avait besoin autant de garde-barrière que de Jean Gabin rêve, même si à la tête de la locomotive. Eh bien, pareil, les pilotes sont un peu les seigneurs du ciel, ceux qui sont au contact du risque, ceux dont on se dit quand on est voyageur, steward, il peut renverser le gobelet de café sur, mais il faut pas en tout cas que le pilote
renverse l'avion.
Ça empêche Bernard que dans 20 ans, le pilote sera peut-être plus facile à remplacer.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les avions peuvent décoller, voler, atterrir sans pilote à bord, et à la limite techniquement, c'est plus sûr. Nous avons besoin de considérer toujours, et nous considérons ces catégories, un peu comme l'aristocratie du métier, un peu les seigneurs. Et c'est ainsi, c'est pas malsain en soi.
Yann Derocq, de chez Odo Security, je vous redonne la parole, Emmanuel, bien entendu. C'est eux, les pilotes, les vrais patrons de Air France. June, par exemple, est-ce que c'est pas l'expression d'un échec pour tenter de redonner de la compétitivité à Air France? Parce que la direction n'a pas pu demander, finalement, au PNC des efforts pour faire davantage, et ce sont les pilotes qui ont dit on veut, on accepte ce coup-ci.
Oui, tout à fait. Je pense que quand on regarde un tout petit peu le paysage européen, on a une stratégie qu'a développée le président d'IAG, le groupe qui recoupe
Iberia et British,
Iberia, qui a essayé un tout petit peu de redévelopper Alexandre de Juniac et Genaya, qu'il faut effectivement embarquer les pilotes. Si vous arrivez à embarquer les pilotes, pour les autres catégories, c'est un petit peu plus facile. Vous avez mentionné, il y a plusieurs discussions qui sont en cours sur Transavia notamment, où on a un cap en termes de nombre d'appareils, potentiellement sur une activité long courrier low cost. Il faut effectivement la validation des pilotes.
Emmanuel, le Chypre, c'est quoi? C'est réformer ou mourir chez Air France? La réforme, elle est facile à Air France. C'est pas un peu comme en France ou dans des entreprises?
Si, c'est exactement pareil.
Voilà.
C'est-à-dire, on a le même sujet qui est toujours cette difficulté. En gros, c'est quand vous vous regardez dans la glace, c'est quand vous vous comparez. Vous voyez, c'est toujours cette fameuse idée. Et là, la difficulté, c'est que quand vous prenez l'entreprise Air France toute seule, dans un aquarium ou sous cloche,
sans KLM.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tous les chiffres qu'on va nous donner sur les efforts qui ont été faits par les personnels, sur les réductions d'effectifs, etc., ils sont réels.
Ils sont réels, bien sûr.
Le problème, c'est que vous vivez pas sous cloche. Et que vous vivez dans un environnement qui est extraordinairement concurrentiel. Et que, quoi qu'il arrive, vous êtes obligé de tenir compte de cet effort. Donc, il y a deux solutions. Soit vous réussissez à convaincre les compagnies du monde entier que leurs salariés travaillent dans des conditions inacceptables, que les pilotes travaillent trop d'heures, sont exploités, etc. Et à ce moment-là, tout le monde relève les standards et le voyageur est prêt à payer plus cher son billet. Ou bien, vous vous adaptez, sinon, vous mourrez. Et la réalité qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que Air France n'est aujourd'hui pas la meilleure compagnie en termes de qualité de service, n'est pas la compagnie la moins chère et n'est pas la compagnie la plus sûre. Donc ça veut dire
d'où l'intérêt peut-être de lui redonner justement des aides, de la compétitivité, de la crédibilité.
Aujourd'hui, Air France n'a aucun avantage comparatif par rapport à d'autres compagnies. Donc la réalité, c'est que la clientèle française aujourd'hui peut se passer de Air France, ce qui est comme une nouveauté historique. Regardez le sondage qui a été fait il y a 15 jours, qui vous dit qu'il y a 30% de la clientèle d'Air France d'aujourd'hui qui veut se détourner d'Air France à cause de ses
grève à répétition,
incessante, etc. Or, la réalité, c'est que l'équation économique d'Air France aujourd'hui, que Pascal a commencé à évoquer, elle est pas bonne. La rentabilité est deux fois plus faible que celle de Lufthansa, presque trois fois plus faible que celle
de British Airways, notamment parce
que vous avez des frais de personnel, par exemple, qui représentent 30% des coûts opérationnels, alors que c'est 15% chez Emirates, c'est 10% chez Ryanair. Donc, vous pouvez toujours dire que ces entreprises...
On va ajouter un élément. 30% des coûts de production sont des coûts de personnel, effectivement, chez Air France, mais ça représente 66% de ce qu'on appelle les coûts pilotables, c'est-à-dire ceux sur lesquels on peut avoir une influence. Tout le reste, c'est de la dépense complètement incompressible. C'est du carburant, c'est de l'achat d'avions, etc. Juste d'un mot, je crois, pour compléter. Les pilotes n'ont pas compris un phénomène qui porte un nom un peu barbare, mais qu'on comprend tous. Le transport aérien s'est commodisé. C'est devenu une commodité. Ça n'est plus une activité de niche pour quelques happy few. C'est un monde qui s'est démocratisé. Et la propension des consommateurs à payer, y compris pour le long courrier, regardez le développement de Norwegian, développement de Level, qui aurait pensé qu'on accepterait du low cost pour traverser l'Atlantique, c'est le cas aujourd'hui. Donc, y compris sur ce qui était le secteur un secteur rentable, le long courrier, la commodisation du transport aérien réduit la propension du consommateur à payer. Et en effet, il faut dire à la décharge des personnels d'Air France qu'il y a une réalité, c'est que en France, les cotisations sociales représentent une part considérable du coût de production. C'est-à-dire, vous donnez 100 à un pilote en France, j'avais calculé ces éléments et je les ai fait valider par des syndicats de navigants, vous donnez 100 à un pilote en France, ça coûte 270 à l'entreprise, ça coûte 210 en Allemagne, ça coûte 110 au Qatar. Donc tout le monde comprend que pour une part des coûts de production qui sont un tiers du coût total de production, considérable.
On peut toujours trouver effectivement, il y a des formes de concurrence qu'on peut juger objectivement relativement déloyales. Prenez toutes les compagnies du Moyen-Orient,
par exemple. Bien sûr.
Ce sont des compagnies
subventionnées.
Qui sont hyper subventionnées, qui n'ont pas de marché intérieur à servir, qui n'ont pas de petites lignes assez peu rentables à développer, qui peuvent faire des économies d'échelle maximale avec les grands hubs, etc. Et oui, mais la réalité, c'est que ces entreprises,
elles sont là.
Et on est bien obligé.
C'est ce qu'on disait, réformer ou mourir. Alors Yann de Rocle, Odo, et vous revenez évidemment Olivier Lavielle. Donc
quand on regarde un petit peu les charges de personnel, si on prend Lufthansa qui est un groupe comparable, on va dire, on a un écart. Vous citez à peu près 30% du chiffre d'affaires en charges de personnel. Chez Lufthansa, c'est 26%. L'écart en termes de charges sociales, c'est 140 points de base. Donc on voit que même avec une compagnie qui est assez comparable à Air France, on a un écart qui est colossal.
Olivier Lavielle, quand même, on a beaucoup tensé les pilotes. Simplement, je faisais la remarque tout à l'heure sur June, par exemple, cette nouvelle compagnie née au mois d'octobre, novembre, je ne sais plus, qui dessert notamment Barcelone, Lisbonne, Le Caire, les Seychelles, Fortaleza au Brésil. C'est pas l'expression d'un échec justement pour tenter de redonner de la compétitivité à Air France, parce que vous les stewards, finalement. Vous n'en voulez pas de faire un petit peu plus. Il a fallu embaucher de nouveaux stewards, de nouvelles hôtesses justement, à qui on va demander de faire un petit peu de ménage, un petit peu de nettoyage, etc. Ce que vous n'acceptez pas de faire, vous, chez Air France, par exemple.
Alors, jamais dit qu'on n'acceptait pas de le faire, mais effectivement, si on nous le propose, on dira non, parce que ça mettrait en péril d'autres corporations de notre entreprise. Nous, on pense, effectivement, tout ce qui a été dit était très, très intéressant. Je pense qu'on atteint la conclusion de tout ceci, c'est qu'il y a un manque de protectionnisme flagrant autour de la compagnie Air France. Il y a diverses choses qui pourraient être réglées, diverses biais financiers qui pourraient être activés, en particulier par le gouvernement. Le gouvernement pourrait choisir de calmer un petit peu son entité quasi féodale qui est ADP, qui aujourd'hui pèse énormément, 24% dans les comptes de
ça
cette entreprise.
Ça sera bientôt du passé, ça va être privatisé.
Oui, mais on a bien compris pourquoi ça a augmenté chez ADP, parce qu'on est en train d'habiller une mariée pour la rendre attractive à des futurs actionnaires qui feront probablement comme ils font avec l'aéroport de Toulouse. Et voilà, derrière ça, vous avez...
Vous n'avez pas tort, on y reparlera.
Il y a la taxe sur... Vous pouvez ajouter la taxe sur... Vous pouvez ajouter de nombreuses taxes, notamment les redevances sécurité, qui ont explosé, 500% d'augmentation depuis 2001, depuis le...
Qui ne sont pas supportées que par Air France, d'ailleurs. Toutes les entreprises de transport aérien françaises qui se retrouvent dans les mêmes difficultés que nous.
La compagnie, elle est entravée, quelque part, c'est ce que vous dites, finalement.
Exactement, on pourrait libérer énormément de choses. Après ça, il y a des choses politiques qui nous dépassent tous autour de cette table, mais effectivement, il y a des créneaux horaires qui sont donnés par le gouvernement français à des compagnies qui sont hautement concurrentielles, et comme il a été dit tout à l'heure, c'est de la concurrence déloyale contre achat de Rafale ou achat d'avions Airbus. Donc vous voyez, il y a une sorte de forme de protectionnisme qu'on pourrait mettre en place. À partir de là, si ces efforts étaient faits, si la communication entre notre direction et les salariés d'Air France était plus lisible, plus transparente, si au lieu de demander des efforts aux salariés et de s'augmenter soi-même de 17%, notre PDG venait discuter avec ses salariés, si avant de nous proposer des primes d'intéressement puis une augmentation de 1%, on s'était mis autour d'une table pour discuter de comment est-ce que nous, syndicalistes et donc salariés, nous aurions pu voir les choses, on aurait pu désamorcer un certain nombre de problèmes bien avant. Or aujourd'hui, vous voyez très bien que, on l'a abordé tout à l'heure, en CCE, demandez quelle est la rémunération du COMEX. Jamais vous n'obtiendrez de réponse. Et mieux encore, on a obtenu des réponses. C'est-à-dire qu'il y a un service qui gère les fiches de paye du COMEX, c'est-à-dire du comité exécutif d'Air France. D'accord ? Ça s'appelle le service des payes exceptionnelles. Ce service-là, il est détaché du service de paye d'Air France.
C'est énorme.
Donc des salariés
d'Air France. Première phase du service de paye.
Exactement. Donc là-dedans, vous avez des doubles payes, des doubles salaires, des doubles... Bon, peu importe. Quand on a mis la main dessus, nous syndicalistes, ils ont rien trouvé de mieux que d'externaliser le service de paye du COMEX pour qu'on ne sache plus du tout combien ils gagnent. Alors, moi, personnellement, syndicaliste, je me fiche de savoir combien ils gagnent. Je veux bien comprendre que le PDG de mon entreprise puisse gagner un salaire assez confortable.
Correct.
Maintenant, ce que j'exige pour mes corporations et les personnes que je défends, c'est de la transparence. Il est bien beau de jeter à la vindicte populaire nos acquis sociaux, nos facilités de transport, etc., etc. Quand soi-même,
que personne ne met ça,
personne ne les remet en cause.
Non, franchement, mais tant mieux parce que tout le monde a des. En plus, bon, vous savez aussi bien que moi ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, vous voyez très bien que ça aussi, on a fait des efforts considérables. De cela. Donc voilà, nous ce qu'on demande c'est juste de la transparence, une discussion qui puisse s'instaurer et une prise de position du gouvernement qui est toujours actionnaire à 14% de cette entreprise pour faciliter la vie d'Air France.
Alors, de toute façon, c'est pas compliqué. C'est pas le client qui paiera. Donc ça c'est une chose.
C'est déjà le client qui paye, je suis
donc
désolé.
Donc ce sera en partie le contribuable. Mais il faut accepter cette idée parce qu'il y a un autre enjeu finalement. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, le client, il a plus besoin d'Air France. En revanche, il y a une vraie question quand même autour de l'attractivité que qu'ont soulevé pas mal d'économistes. C'est autour de l'importance d'avoir à Paris un hub international. Et la question, c'est si Air France disparaissait, quelle est la compagnie qui serait capable...
Une compagnie résidente.
Voilà.
Il faut une compagnie résidente
parce que il y a un enjeu Il y a un enjeu très clair autour de l'attractivité de l'Île-de-France en général. Il faut avoir un grand. Et donc, à ce moment-là, quelle compagnie résidente on met pour effectivement assurer la vie de ce hub. Et donc, paradoxalement, c'est peut-être moins le consommateur qui a besoin d'Air France aujourd'hui que la compétitivité de la France en général.
Mais
à ce moment-là, si vous adoptez ce raisonnement-là, ça vaut peut-être effectivement le coup de se poser la question en des termes différents de ceux d'une entreprise qui doit tout simplement avoir des coûts et des recettes pour faire des bénéfices.
J'aimerais juste une phrase.
Un point, Olivier Lavielle.
Quand on parle de la disparition éventuelle d'Air France, on parle quand même derrière ces chiffres-là.
On n'en est pas encore là.
On a ce débat-là à chaque fois qu'il y a
des... Mais il y a un autre scénario pire.
Alors attendez, chacun son tour.
On parle de 300 000 emplois directs et indirects. Donc ça serait quand même une catastrophe de pouvoir avoir un gouvernement qui considère pouvoir sacrifier une entreprise qui représente 300 000 salariés aujourd'hui, au lieu de faire les quelques efforts qui permettraient à cette entreprise de pouvoir se développer. Aujourd'hui, le transport aérien se porte très bien, et on n'est toujours pas en mesure à Air France d'embaucher des gens. Et ça n'est pas acceptable.
Air France aurait les moyens de répondre favorablement aux demandes des grévistes, Yann De Rock, cette hausse de plus de 5% demandée par l'intersyndicale?
Elle aurait les moyens à peu près. Quand on regarde 1%, c'est à peu près 40 millions d'euros. Donc effectivement, quand on compare par rapport à l'inflation de la facture carburant, oui. Après, je pense qu'on peut renverser aussi les choses, juste pour mentionner ce point-là.
Allez-y, je vous en prie.
On voit bien qu'aussi qu'il y a une attractivité du marché français. Si on a Delta et China Eastern qui sont rentrés au capital
d'Air France l'an dernier,
c'est aussi un mouvement défensif pour sécuriser cet apport du marché français.
En même temps, je peux vous renvoyer l'argument. China Eastern et Delta qui rentrent au capital de Air France. Est-ce que c'est vraiment le signe d'une compagnie en bonne santé? Parce qu'il y a un temps où Air France rachetait elle-même des compagnies.
C'est un mouvement défensif.
Mais le marché. Pascal Perry.
Ce qui est terrible au fond, et je m'adresse à vous mais je m'adresse en même temps à la communauté d'Air France, c'est que le marché sur lequel vous êtes est un marché en croissance forte. Mm-hmm. Vous n'êtes pas sur un marché qui recule. Sur un marché qui va doubler en 25 ans. C'est-à-dire qu'on transporte aujourd'hui 4 milliards d'individus par an en avion, et on va aller probablement au double, peut-être même en moins de 20 ans. Donc vous êtes invité à la table de la croissance. Et quand vous dites on pourrait prendre des mesures protectionnistes, évidemment c'est contre-intuitif avec la mondialisation du transport aérien. Même si on prend des mesures protectionnistes, 97% de vos contrats, des contrats de travail, sont des contrats de droit français, alors que 60% de votre activité, c'est naturel, vous êtes transporteur aérien, elle se fait
à l'étranger.
Et donc, ce qui vous menace, à mon sens, c'est pas la disparition. C'est le syndrome Alitalia. Le syndrome du rétrécissement, du crunch. Vous voyez, de l'attrition, du rabougrissement. Vous avez la chance de pouvoir être encore un grand acteur du transport aérien dans le monde. Et finalement, à la sortie, alors que le marché est en croissance, on pourrait se retrouver avec une petite compagnie régionale. Et donc, pour moi qui suis client d'Air France depuis 40 ans, 40 ans de fidélité à Air France. Une médaille. Non, rien. Mais, parce qu'il y a le mot France dedans aussi. Il y a le mot France dedans. Je dis que
L'art de vivre aussi.
Gâchis monumental.
Ne mettez pas ce gâchis sur le dos des salariés, encore une fois.
Pas du vôtre. Mais les pilotes, ils sont pour beaucoup, monsieur.
Les pilotes, vous savez.
Franchement, quand ils veulent pas. Je posais à Bernard Vivier. Quand on est steward, on a envie de se comparer aux pilotes. Franchement, on a l'impression que les syndicats de pilotes, négocient dans le même temps des revalorisations salariales propres à leur profession.
Vous dire ça de manière très simple. Il m'est arrivé d'être dans des avions où effectivement, ce sont deux personnes au cockpit qui m'ont sauvé la vie et celle de mes 300 passagers. Effectivement, j'entends bien que pour la plupart des gens, des salaires à 24 000 euros, ça puisse paraître complètement incroyable. Pour autant,
pas à mes yeux.
Quand vous êtes aux commandes d'un avion qui coûte ce prix-là, avec la responsabilité de 300 personnes, la responsabilité de ces personnes, de ces âmes-là, je peux vous garantir que la charge de travail, elle est énorme. Mmh. Maintenant,
elle est la même pour les pilotes d'Emirates ou de.
Oui, elle est la même pour. Vous savez combien ils sont payés, les pilotes d'Emirates. Une fois, puisqu'on parlait aujourd'hui, on parlait à l'instant même de compagnies qui bénéficient.
Ils sont payés beaucoup moins cher, les pilotes de
protectionnisme et compagnie. Si on parle d'Emirates, Qatar et compagnie, si on parle protectionnisme, on y est quand même, je veux dire, à un moment donné. Vous voyez très bien que c'est faisable. Par ailleurs, vous avez Delta Airlines qui a bénéficié du système de faillite du gouvernement américain. C'est une forme de protectionnisme aussi, qui fait qu'aujourd'hui Delta Airlines vole toujours et qu'elle distribue des primes d'intéressement à ses salariés qui sont 6 fois supérieures aux nôtres. Donc vous voyez que c'est pas impossible. Quand vous avez une grande puissance comme les États-Unis qui trouve le moyen de faire du protectionnisme, et Dieu sait que notre président de la République aujourd'hui est attaché au modèle américain et à son Donald Trump, vous comprenez bien qu'on pourrait lui demander.
Mais c'est pas le même marché. Marché américain, marché français, c'est pas les.
Mais il y a plein de mesures protectionnistes autres que. Enfin, prenez par exemple Air France aujourd'hui pour aller à Tel Aviv, par exemple, vous n'avez pas le droit au gros porteur. Vous êtes obligé de vous taper un A320 pendant 4 heures, comme si vous preniez un train de banlieue pour aller à Lyon. Vous voyez, c'est quand même pénible. Mais c'est parce qu'il y a une forme de protectionnisme sur la possibilité d'emmener des gros avions, alors que El Al, par exemple, peut très bien, avec des gros porteurs, venir.
On voit des 747 à Paris. Yann De Rock et Bernard Vivier, promis, allez-y. Yann De Rock, Vermeaucourt et Bernard.
Notre forme de protectionnisme, c'est Orly. Enfin, on a un cap théorique en termes de créneaux d'atterrissage et décollage uniquement pour protéger Air France.
La grande leçon de tous nos débats, c'est que la question des relations sociales est centrale. il faut bien considérer que dans la compétition mondiale, la performance des relations sociales concourt et aujourd'hui de plus en plus à la performance globale de l'entreprise, pour la faire gagner ou pour la faire perdre. Et aujourd'hui, Air France est dans la spirale de l'échec, parce que Air France s'est habitué depuis des années, des dizaines d'années, à un confort sur un format qui ne changeait pas, avec un deal, la direction, je suis un peu brutal, qui achetait la paix sociale, et des syndicats qui réclamaient toujours davantage. Alors, c'est vrai, les pilotes, ils gagnent beaucoup d'argent. Et après tout, le personnel, quand il voit que l'équipe du COMEX gagne beaucoup d'argent, n'est pas en soi choqué. Ce qui est un peu choquant, c'est effectivement cette espèce de jeu de cache-cache pour cacher les salaires. Mais que des entreprises distribuent des bons salaires, c'est important. Attention, distribuent des bons salaires dans un effort collectif. On ne réclame pas 6% d'augmentation quand l'entreprise commence tout juste à renouer avec les bénéfices.
10, Bernard.
10%. 10 pour avec les bénéfices. Et donc ça, c'est une leçon importante. Certes, il y a 300 000 personnes qui travaillent dans le transport aérien, mais Air France, c'est 46 000 personnes, c'est pas 300 000. Dans une gare, celui qui vous vend le journal, il n'a pas le statut de cheminot.
Non.
Il travaille pour...
Il y a l'écosystème.
Bon. Donc, l'écosystème, c'est 300 000 personnes. Et dans les 46 000 qui travaillent, il n'y en a pas 10%, il y en a 3 387 exactement, qui sont des pilotes. Donc, il y en a très peu. Et le personnel navigant, plus les pilotes, navigant commercial plus les pilotes, n'est pas la majorité.
On se continue dans un instant. Est-ce que les pilotes vont tuer Air France? Question qu'on pose ce soir dans les décodeurs de l'écho. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, la grève à Air France, hein, demain journée, mais bon, apparemment 85% du programme de vol, c'est-à-dire le taux le plus élevé depuis le début du conflit, donc qui a dû démarrer le 22 février, seront assurés demain, d'ailleurs, ce qui a fait bondir le titre Air France à la Bourse de Paris, en hausse de plus de 6%. Juste un mot, tiens, Yann De Rock, l'analyste financier, c'est Odo Securities, tout à l'heure, Olivier Lavielle, donc qui représente l'intersyndical, en tout cas au nom des navigants du groupe Air France, il est steward, nous disait, dans ce qui plombe Air France, il y a les redevances d'ADP, Aéroport de Paris. Oui.
Oui, en partie. Enfin, parce qu'effectivement, on a une inflation cette année. On va augmenter d'un petit peu plus de 1%. Le prix des redevances, plus l'effet volume.
Plus qu'à Francfort, plus qu'à Londres.
Plus qu'à Amsterdam, qui est la base d'Air France KLM, où on a une baisse du prix des redevances.
Ah. Et comment ADP justifie ça?
Ah, parce qu'il y a effectivement quelques investissements. Donc, on a eu là aussi pendant 2-3 ans un gel des hausses des redevances, et on a des investissements qui sont en partie dédiés à Air France sur la partie est de Charles de Gaulle et sur Orly, et que KDP doit financer. Et
on ne gonfle pas un peu les résultats d'ADP?
Oh, il y a sûrement avant
la vous savez avant de la présenter Alain Pétran, la mariée doit être embellie. Oui, on est quand même dans cette logique-là.
Sauf quand tu connais le futur mari.
Ça veut dire.
Et là, on connaît
quand on a des compensations à donner au futur mari.
Vinci.
Oui, bien sûr. On a quelques compensations qui viennent de Nantes, qui viennent d'ailleurs, vous voyez, à donner. Enfin, il y a de nombreuses raisons pour le donner à Vinci.
Mais
ça veut dire qu'Air France paye.
Oui.
Ça veut dire qu'on fait payer à la compagnie aérienne le prix du mariage.
Au-delà de ça, Pascal, c'est la schizophrénie de l'État actionnaire.
Oui.
D'un côté, vous avez un État qui réclame de la compétitivité, des efforts, etc., mais qui est en partie responsable aussi des mauvais résultats de la compagnie. Et ça, on le voit, on l'a vu aussi à la SNCF. Quand vous avez quand même la situation financière de la SNCF, qui s'explique en partie par le fait que la SNCF est la seule qui a dû financer le coût de ses infrastructures sur ses deniers, alors qu'on ne demande ça à aucune compagnie aérienne ou à aucune compagnie de transport routier, etc. Là, vous avez quand même cette schizophrénie de l'État actionnaire qui est loin d'être vertueuse.
Le mouvement chez Air France, hein, puisqu'il y a 4 dates de grève en mai, puis il y a eu déjà un conflit qui a coûté 300 millions d'euros à la compagnie Dixit, donc la direction. Pas forcément un mouvement isolé, tiens, j'ai l'impression. Yann De Rock, joue à Vueling, qui va supprimer demain et vendredi plus de 200 vols, grève des pilotes. Ils avaient déjà arrêté le travail la semaine dernière. Grève en avril chez Lufthansa sur fond de négociation salariale. Il y avait eu ces menaces de grève aussi chez Ryanair. des pilotes en position de force dans toutes les compagnies, au vu des départs en retrait, des baby-boomers.
Pilotes de tous les pays, unissez-vous.
Voilà, ouais, c'est un petit peu ça. Hein. C'est ça. Ça avait commencé il y a un petit peu plus d'un an avec le Delta, avec les pilotes de Delta qui avaient eu grosso modo, enfin à peu près 40% de salaire et ça avait mis le feu à toutes les revendications.
On manque de pilotes dans le monde. Et compte tenu de la hausse du trafic, rappelait Pascal il y a un instant.
Exactement, avec une hausse du trafic aérien, et c'est un marché mondial, notamment sur le long courrier, et donc on a une inflation qui repart.
Oui, mais juste, est-ce que le SNPL est cerné? On voit ça énerve déjà beaucoup de monde. Alors ça énerve évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, Emmanuel Le Chip, les passagers qui se disent on va peut-être aller voir une autre compagnie qu'Air France pour aller aux États-Unis, en Norvège ou je ne sais où, en Italie. Je cite Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT, qui dit le SNPL prend tout le monde en otage. Mmh. Déclaration choc, Bernard Vivier.
Oui, et le même Laurent Berger avait en 2014 eu des propos très durs sur les pilotes de Air France. Le SNPL, c'est un vieux syndicat. Il a été créé en 1952, mais il vit, et c'est heureux, le vent de la concurrence. Il y a eu, en 1993, un syndicat dissident qui grandit, le syndicat des pilotes d'Air France, et aux dernières élections, qui remontent à 2015, voilà, le SNPL a baissé en audience de façon assez significative, et le SPAF a monté. De la même façon, dans les autres personnels, c'est la même chose. La CGT est passée du premier rang au quatrième rang entre 2011 et 2015. Mmh. Et c'est la CFE-CGC qui a pris aujourd'hui la première place. Donc, il va y avoir des élections en moins d'un an,
pas la grève,
en mars 2019, et les organisations syndicales sont aujourd'hui dans une compétition. Vous savez, il faut aussi tenir compte de ça. C'est le cas à la SNCF, où il va y avoir des élections en novembre, et où, par exemple, Force ouvrière espère atteindre 10%. 10%, c'est un chiffre qui est important, ça permet d'avoir, ça donne le droit d'aller à la table de négociation et négocier. Sinon, on n'est pas représentatif.
Je disais ça énerve beaucoup de monde. Pascal Perry, on parlait tout à l'heure de la différence de rentabilité entre Air France et KLM. Voilà, qui sont ensemble dans le même bateau, sans jeu de mots. Aux Pays-Bas, chez l'autre concurrent, au pays de KLM, on commence à s'interroger sur la situation conflictuelle à répétition du français Air France. C'est un pays où on ne fait pas beaucoup grève.
Le syndicat des mécaniciens. Alors est-ce que c'est une plaisanterie ou pas? Je pense que non, parce que les Hollandais rigolent peu avec ça. Le syndicat des mécaniciens a menacé d'une grève, non pas pour obtenir des augmentations de salaire, mais pour se séparer d'Air France. Parce que ce que disent les mécaniciens de KLM, c'est que c'est une holding et si Air France coule, tout le monde coule. Donc
Quand on voit ces 300 millions justement que je rappelle.
Oui, il y a un écart de conditions concurrentielles entre les Pays-Bas et la France. Vous l'avez dit, il y a les taxes, les redevances d'atterrissage, les taxes passagers, il y a le poids des cotisations sociales. Mais il n'empêche que on doit faire un examen de conscience sérieux de la situation d'Air France. Les pilotes chez Air France, c'est 8%. De la population de l'entreprise et c'est presque un quart de la masse salariale. Mmh. Donc c'est la population la mieux traitée dans cette entreprise. Pour des raisons que Bernard évoquait tout à l'heure qui sont justes, parce qu'il y a une technicité, parce qu'ils ont des responsabilités. Mais précisément, je pense que quand on occupe cette position dans une entreprise, on a aussi une responsabilité sociale. On n'a pas que des responsabilités humaines et techniques. C'est-à-dire que les pilotes d'Air France, qui pendant très longtemps ont été comptables, au fond, de l'avenir de cette entreprise, en situation de co-gestion, doivent aujourd'hui comprendre que les temps ont changé, que les attentes des consommateurs ont changé, et que c'est le marché qui vote. Il faut sortir de ce syndicalisme féodal qui emmène la compagnie dans le monde.
Mais alors, je citais les Pays-Bas, justement, qui s'inquiète sur la facture de 300 millions d'euros des grèves d'Air France. Je cite la presse néerlandaise, le NRC Handelsblad, qui dit « Imaginons que Jean-Marc Janaya quitte le groupe. Est-ce que ça va servir les intérêts de KLM ou ceux du holding ?» On émet des doutes, des questions également sur le référendum lancé par Jean-Marc Janaya, où clairement, Jean-Marc Janaya, lui, il a dit « Je ne vois pas comment je pourrais rester si le non l'emporte ». Que dire de la méthode de Jean-Marc Janaya? Pourquoi est-ce qu'il a dû recourir à une telle initiative? Est-ce que la direction joue les salariés contre les syndicats? Olivier Lavielle, donc, porte-parole du syndicat des navigants du groupe Air France.
Écoutez, moi je vois une personne qui n'a jamais souhaité ne serait-ce que discuter en préalable à une négociation et qui aujourd'hui se comporte un peu comme un mari qui frapperait sa femme et qui lui met la menace de dire si tu acceptes pas mes conditions, je me barre avec les enfants, la voiture, la maison et tout ce qui va avec. Je trouve que là, C'est peut-être un peu fort, mais c'est un peu,
en tous les cas,
l'idée que les salariés ont aujourd'hui de cette décision-là. D'ailleurs, je reviens sur le terme de référendum. Ce n'est pas un référendum, mais une consultation. Donc, a priori,
Imaginons si le oui l'emporte, c'est-à-dire la question qui va être posée pour permettre une issue positive au conflit en cours. Êtes-vous favorable à l'accord salarial proposé le 16 avril 2018? Si le oui l'emporte, vous dites, nous, on s'en fout, on s'assoit dessus, hein. De toute façon, ça n'avait aucune valeur contraignante. Par contre, si le non l'emporte, ça, vous direz.
Il faudra, parce que nous avons des discussions dans l'intersyndicale, et même sans la direction, puisqu'elle refuse de discuter, il faudra effectivement qu'une intersyndicale se réunisse et qu'on en discute. Pour en revenir aux pilotes tout à l'heure, c'est un peu injuste de qualifier de cette grève comme une grève des pilotes, parce que, pour une fois, et depuis, moi en tout cas, j'étais pas là, lorsque c'est arrivé, si c'est jamais c'est arrivé, les pilotes ont pris la défense de tous les salariés d'Air France aujourd'hui. Donc ça, c'est une justice que j'aimerais rétablir. Les pilotes aujourd'hui ne courent pas pour leur propre équipe, ils courent pour tout le monde. Non, il n'y a aucune preuve pour l'instant.
Est-ce que les syndicats de pilotes ne négocient pas en même temps des revalorisations
salariales? La direction leur a fait le coup qu'elle fait d'habitude, c'est-à-dire qu'elle est venue les brosser en sens du poil avec une offre qui effectivement aurait pu être acceptée par les pilotes parce qu'elle est excessivement complaisante à l'égard des pilotes. Et pour autant, Monsieur Philippe Évin et le CNPL ont refusé cette offre-là pour pouvoir continuer le combat vis-à-vis de la justice que demandent tous les salariés d'Air France. Donc ça, c'est une vérité qu'il faut rétablir. Maintenant, pour ce qui est de KLM, on finance très largement la retraite de KLM à hauteur de 300 et quelques millions d'euros par an. On a fait beaucoup de transferts d'activités d'Air France vers KLM pour des raisons fiscales, il faut pas se leurrer. Et donc, KLM aurait beau jeu, alors j'ai rien contre mes collègues syndicalistes de la maintenance de KLM, mais ils auraient beau jeu de se séparer d'Air France. Parce que, une chose est sûre, avec une compagnie qui fait deux fois moins de taille qu'Air France, dans un secteur concurrentiel que l'on connaît, s'il n'y a pas Air France derrière pour pousser, je pense qu'ils iront pas loin non plus.
La méthode Janaillac, Bernard Vivier, quand même, il a engagé son poste, hein, son avenir personnel, donc, dans la compagnie Air France. Pourquoi il a fait ça, Jean-Marc Janaillac? C'est vraiment, il y a le feu dans la compagnie?
Oui, il y a le feu dans la compagnie. Cette maison peut flamber, effectivement, et les réactions des syndicats KLM l'indique bien, hein, séparons-nous de Air France, on veut pas couler ou sombrer ou brûler.
C'est envisageable ça, sérieusement?
Bien sûr. Oui, maintenant, la technique du référendum qui est devenue un plébiscite, en fait, parce que c'est pas une question sur l'avenir d'Air France,
non.
C'est une question sur
pour ou contre
le maintien de Janaillac
à la tête de la
holding. Maintenant, ce qui est intéressant dans l'image, qui était très violente, hein, que vous avez utilisée sur la relation d'un mari qui battrait sa femme, une direction d'entreprise n'est pas mariée avec les syndicats. Si on prend cette image, ça légitime effectivement cette espèce de concubinage, de co-gestion ancienne, difficile, vers qui une direction dirige. Elle dirige qui? Des salariés, à travers les managers, à travers des personnes, aussi des représentants du personnel. Mais la consanguinité des relations direction-syndicat est devenue mortelle pour l'entreprise. Et cette entreprise a tout à bâtir dans sa politique de relations sociales.
Yann De Roch, je cite le Premier ministre, Édouard Philippe, qui la semaine dernière avait estimé, dans le cas du non, j'inciterais volontiers tout le monde à boucler sa ceinture de sécurité parce que les turbulences, à mon avis, ne seraient pas minimes. Si Jean-Marc Janaillac s'en va à l'issue du référendum, si jamais le non l'emporte vendredi, qu'est-ce qui va se passer à votre avis?
Il y a quelqu'un qui sera très content de prendre sa place déjà.
Oui, sûrement. Bon, enfin, ça c'est autre chose.
Que quand Monsieur De Juniac est parti.
Bah oui.
On l'a poussé à la porte. Je suis désolé de le dire, mais les salariés l'ont poussé à la porte. Et puis on a eu Monsieur Janaillac. Voilà. Et puis là, il y en aura un prochain.
Ça fait partie de ces boîtes où ça sert à rien que le patron s'en aille.
Qui partira comme Madame Parly avec 670 000 euros de chèques vacances. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais tant qu'on n'aura pas un capitaine d'entreprise, quelqu'un qui a une vision de l'aérien et qui sait parler à ses navigants comme à ses salariés, et qui ne soit pas qu'un chef d'entreprise, quelqu'un qui pourra fixer un cap sur le long terme, je peux vous dire, on a fait beaucoup d'efforts les salariés d'Air France. Pourquoi? Parce qu'on aime tous notre entreprise, parce que l'histoire, parce que l'héritage, parce que tout un tas de choses. Parce qu'on a perdu des collègues aussi.
On avait assez de vivre de plan en plan.
On est tout à fait prêt à négocier avec un PDG qui sera capable de considérer les acteurs de cette entreprise comme ceux qu'ils sont. C'est des gens qui sont amoureux de l'entreprise.
Alors un mot, Yann De Roch et Pascal Perry, et après on se dit au revoir. Oui, c'est quoi les scénarios donc vendredi? Qu'est-ce qui peut se passer? Le oui l'emporte, qu'est-ce qui se passe?
Si le oui emporte, je pense qu'effectivement il faut avancer, il faut coupler avec une vision stratégique. On a une question qui finalement est uniquement une question sur les salaires. Je pense qu'il aurait fallu combiner une question un petit peu plus long terme sur la stratégie du groupe Air France.
C'est ça, la direction, elle veut discuter en même temps des salaires et des leviers de croissance possibles, notamment le développement de Transavia. Les pilotes, ils veulent déjà parler de leurs revendications, et après on parlera du reste.
On aurait dû combiner l'ensemble, parce qu'aujourd'hui c'est effectivement plutôt un plébiscite.
Les scénarios du référendum, un mot, allez, Bernard et Pascal.
Oui, le scénario du référendum, c'est la pire des solutions dans une entreprise. La direction lit son propre avenir à la décision des salariés. Ce que dit monsieur est vraiment important. On Olivier ne joue Lattel. Pas l'avenir de l'entreprise en ne considérant pas le personnel. Et c'est vrai, cette entreprise a besoin d'un vrai chef d'entreprise, ce qui veut dire que cette entreprise doit être une entreprise, ce qu'elle n'est pas encore.
Pascal Perry, le mot de la fin et on se dit au revoir.
En 93, Blanc avait consulté le personnel. Et il, au fond, je crois qu'il avait le vrai succès de Blanc.
Il y avait un risque de faillite à l'époque.
Oui, mais le vrai succès de Blanc, ça a été de convaincre les salariés d'Air France que l'entreprise était mortelle. Mmh. Il la pensait immortelle et éternelle. Je pense qu'il a permis ensuite sa transformation. Alors Spinetta est arrivé avec une vision. Celle des alliances, la mondialisation du transport aérien, elle manque peut-être aujourd'hui, en effet, mais il faut admettre aussi que tous les projets de croissance ont été bloqués par les pilotes. Tous, y compris ceux qui amenaient Air France à participer à la croissance du marché intra-européen. Pourquoi ne pas avoir créé une filiale low-cost au Portugal qui aurait permis d'aller chercher les riches en Europe du Nord pour venir consommer des produits touristiques en Europe du Sud sans toucher au marché d'Air France.
Merci à tous. Merci Pascal Perry, directeur de PNC Économique. Bernard Vivier, le directeur de l'Institut supérieur du travail. Yann Derocle avec nous, analyste financier chez Odo Securities. Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business. Et puis Olivier Lavielle, porte-parole du syndicat des navigants du groupe Air France, qui a aussi un bel uniforme. On revient vite avec les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.